Bonjour à chacun. Il y a quelques années maintenant, quand Ronald Reagan était président des États-Unis, un jeune garçon qui souhaitait acquérir la somme de $50 priait tous les jours dans ce sens. Et pour finir, il décida d'adresser une lettre à Dieu que la poste américaine fit suivre jusqu'à la Maison-Blanche. À la fois ému et amusé, Ronald Reagan finit par demander à son secrétaire d'envoyer $5 au jeune garçon pour l'aider dans l'obtention de la somme désirée. Le jeune garçon fut tout excité d'obtenir une réponse à sa lettre et il décida d'écrire une lettre de remerciement. Voilà en essence ce qu'elle disait. « Cher Dieu, merci beaucoup d'avoir envoyé l'argent. Je constate que tu as choisi de l'envoyer par la Maison-Blanche qui, comme le dit souvent mon père, a presque tout pris au passage, comme d'habitude. » Cette petite histoire nous rappelle la réalité, parfois douloureuse, dont nous devons tous, à divers degrés, nous acquitter envers l'État. Un État qui, pour certains, à l'instar du père, du jeune garçon de notre histoire, prélève parfois une part considérée trop importante, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, la semaine dernière, nous avons considéré une parole de Jésus qui nous engageait à ne pas servir de maître et donc à choisir. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur une autre parole de Jésus qui nous engage aussi, mais cette fois-ci à ne pas faire de choix et à rendre à la fois à César et à Dieu ce qui leur revient. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Et je vous invite à lire notre passage qui se trouve dans trois évangiles. J'ai choisi le récit de l'évangile de Marc. Nous sommes au chapitre 12 et je lis les versets 13 à 17. Marc, chapitre 12, versets 13 à 17. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne redoutes personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César ? Devons-nous payer ou ne pas payer ? » Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve ? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ? » ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez à César, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient dans l'étonnement à son sujet. Aujourd'hui, en France, en 2021, et depuis 1905, nous vivons dans un régime qui sépare clairement les églises de l'État. Ça n'a pas toujours été le cas. Au fil de l'histoire, le pouvoir de l'Église et celui de l'État se sont parfois mêlés au point de se confondre. Aujourd'hui, alors que nous avons le privilège en France de vivre une situation claire dans ce domaine, nous pouvons et nous devons néanmoins toujours nous poser la question de savoir ce qui revient à César et ce qui revient à Dieu. Et c'est ce que je vous propose de considérer ce matin. Et je vous propose de commencer par quelques généralités et autres précisions pour essayer de bien appréhender le texte, ce qui se passe dans notre récit. Et il y a tout d'abord la question de ce qu'on peut appeler les liens narratifs, c'est-à-dire les liens entre notre récit et son contexte. Et à ce sujet, si on lit un petit peu ce qui entoure, surtout ce qui précède notre texte, on arrive assez vite à la conclusion que la lecture la plus naturelle de notre récit est de le comprendre comme faisant suite au questionnement de la fin du chapitre 11, un questionnement sur l'autorité de Jésus. Un enseignement sur l'autorité de Jésus qui va amener la parabole des vignerons et puis qui va amener cet épisode. On peut noter ici que dans notre passage, que notre passage fait partie d'une série de controverses, de discussions un petit peu tendues entre Jésus et différents interlocuteurs. Jésus et ses ennemis, pourrions-nous dire. Ses ennemis qui sont en partie clairement identifiés dans notre texte. Au verset 13, ceux qui viennent trouver Jésus sont des pharisiens et des hérodiens. Je passe sur les pharisiens, on en parle régulièrement. Les hérodiens sont un petit peu moins connus, c'est simplement le parti d'Hérode. Hérode, c'est le roi juif en place. Hérode Antipas, un roi mis en place par les Romains, et les Hérodiens sont donc ceux qui soutiennent le règne d'Hérode. Concernant cette association assez improbable, on aurait pas mal de choses à dire ici, mais je passe rapidement. Une remarque quand même que j'aimerais faire, c'est le fait que nous constatons dès le début de l'évangile de Marc que cette association improbable existe. Au chapitre 3, Marc 3, verset 6, nous lisons, donc c'est au tout début, Marc 3, « Les pharisiens sortirent et se consultèrent aussitôt avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. » Ça fait donc un bon moment, nous sommes au chapitre 12, la passion dans l'évangile de Marc commence au chapitre 14, donc nous sommes déjà vers la fin du ministère de Jésus, et nous nous rendons compte que ça fait un bon moment que les pharisiens et les Hérodiens essayent de se débarrasser de Jésus, qu'ils réfléchissent aux moyens de se débarrasser de Jésus. À la lumière de ce précédent, donc au chapitre 3, il n'est sans doute pas exagéré de comprendre que notre récit, comme s'inscrivant dans leur projet, le projet des pharisiens et des Hérodiens, visant à se débarrasser de Jésus. Nous allons parler des enjeux dans quelques instants. Si les pharisiens et les Hérodiens sont au premier plan dans notre passage, vous avez sans doute remarqué qu'ils ne sont que des émissaires. En effet, au verset 13, nous lisons « Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des Hérodiens. » Ils envoyèrent. À qui fait référence ce « ils » ? Ils envoyèrent. Sans doute aux scribes et aux grands prêtres qui sont mentionnés dans les versets qui précèdent. Marc 11, je commence à cet endroit, Marc 11, verset 18, « Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent les moyens de le faire périr. Il le craignait parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. » Et puis quelques versets plus loin, verset 27, ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui. Et encore quelques versets plus loin, juste avant notre texte et le début de notre texte, ils, clairement les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des Hérodiens. Ce qui se passe dans notre texte, donc, c'est que l'ensemble des chefs religieux de l'époque se liguent pour essayer de se débarrasser de Jésus. Je dis l'ensemble, en réalité, il manque encore un groupe, celui des Sadducéens, mais ce sera chose faite tout de suite au verset 18. Après notre passage, il est question d'une controverse avec les Sadducéens. Si tous les liens que nous venons d'établir sont exacts, alors nous sommes certainement encore dans le temple au moment où ces pharisiens et ces hérodiens viennent trouver Jésus. Après ces quelques précisions, passons maintenant à l'objet de la venue des pharisiens et des hérodiens. Pourquoi viennent-ils trouver Jésus? Dans quel but? Une chose est sûre, c'est que leur venue auprès de Jésus n'est pas motivée par l'amour pour Jésus. En apparence, ils viennent pour poser une question. Mais ce n'est pas une simple question. Ce n'est pas une question anodine. Ce n'est pas une question pour apprendre de Jésus, pour comprendre quelque chose. Et le but est clairement cerné par l'évangéliste. Ils viennent pour piéger Jésus. Verset 13, afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Les pharisiens et les hérodiens viennent donc pour essayer de prendre Jésus en défaut. Ce qui m'amène à dire un mot sur leur hypocrisie. Pourquoi hypocrisie? Parce que l'apparence des pharisiens et des hérodiens est celle du respect. Les mots qu'ils utilisent sont les mots du respect. Maître, nous savons que tu es vrai, tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, mais leurs intentions sont mauvaises. Les mots donc qui semblent dire le respect, la reconnaissance de qui est Jésus, mais ce n'est pas le cas et Jésus n'est pas dupe. C'est vrai, il est doux et humble de cœur, mais il n'est pas naïf. Et il démasque leurs intentions, mauvaises. Verset 15, Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve ?» Il y a quelque chose d'ironique ici, de tragicomique presque. Pourquoi? Parce que finalement, les adversaires de Jésus sont pris à leur propre piège. Eux qui refusent l'autorité de Jésus, eux qui refusent son enseignement, finissent par dire ici, par confesser la vérité au sujet de Jésus. C'est vrai, malgré eux, mais la vérité quand même. Oui, il est bien le maître. Oui, il est vrai ou véridique. Oui, il enseigne la voie de Dieu selon la vérité. Tout ça est vrai. Mais c'est une ironie que ce soit eux qui n'en croient pas un mot qui finalement le disent. Alors passons maintenant aux questions posées par Jésus et à leurs enjeux ou leurs enjeux. Quelles sont ces questions et de quoi est-il vraiment question ici? Les deux questions posées à Jésus au verset 14 concernent ce qu'on pourrait appeler la capitation, c'est-à-dire l'impôt par tête. L'impôt par personne, la taxe, le tribut demandé par César. Verset 14, est-il permis de payer le tribut, la capitation à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? La première question soulève la question générale de la légitimité d'un tel impôt. Et on pourrait sans doute résumer cette question ainsi, Dieu permet-il une telle pratique? Permet-il que nous payions l'impôt à César? La loi n'est-elle pas contre cela? Et la formulation est telle que la réponse attendue est par oui ou par non. La deuxième question est similaire, devons-nous payer ou ne pas payer? Mais elle est sans doute un petit peu plus ouverte. C'est plus, que devons-nous faire? Quelle attitude devons-nous avoir? Un mot rapide sur les impôts de l'époque. Il y avait, comme pour nous aujourd'hui, des impôts directs et des impôts indirects. Dans les impôts indirects, il y avait par exemple les droits de douane qui étaient collectés par les péagers, par les publicains. C'est ce que faisait Matthieu au moment où Jésus l'a appelé à le suivre. Les impôts directs, quant à eux, étaient composés, il y avait plusieurs composantes, mais la composante principale, c'était la taxe sur les produits de la terre, que l'on payait quand on exploitait la terre, et puis il y avait d'autres choses, et en particulier cet impôt par tête, qui est l'impôt de notre texte. Chaque citoyen de l'Empire romain et la Palestine fait partie de cet empire à ce moment-là, chaque citoyen de l'Empire romain devait payer cette taxe d'un denier prélevé par les magistrats municipaux. Et le denier, c'est à peu près l'équivalent du salaire journalier d'un ouvrier, pour avoir une comparaison. Nous savons dans l'histoire, par Joseph, l'historien en particulier, que les Juifs se sont souvent révoltés contre ces impôts imposés par Rome. L'impôt à César n'était pas populaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cela nous amène à parler de l'enjeu des questions qui sont posées à Jésus. Quel est-il ? Et puis, surtout, où est le piège tendu à Jésus ? Ce que les pharisiens et les hérodiens veulent faire, c'est compromettre Jésus par ça ou ses réponses. Et ici, il y a deux cas de figure possibles. Si Jésus répond positivement à la question, aux questions qu'il pose, alors ça veut dire qu'il s'oppose clairement au sentiment du peuple et il devient, d'une certaine manière, l'ennemi du peuple, puisqu'il devient l'ami de Rome en incitant à payer l'impôt. Il devient l'ennemi du peuple, il devient une sorte de collabo. Et Jésus, par cette réponse positive, serait alors discrédité aux yeux du peuple, pour qui, nous l'avons dit, l'impôt à Rome était difficile à avaler. C'était la marque odieuse d'une soumission qu'il refusait, pour la plupart. Et coupé du soutien du peuple, alors Jésus aurait été facilement arrêtable, ce qui n'était pas encore le cas. Souvenez-vous, nous l'avons déjà lu, juste le verset qui précède notre texte, « Il cherchait à se saisir de lui, mais il craignait la foule. » Et ça, c'est répété à plusieurs reprises dans les versets qui précèdent. Pour l'instant, Jésus a l'appui, le soutien du peuple. Impossible de l'arrêter sans créer une émeute. Si Jésus répondait négativement, alors, autre cas de figure, il se mettrait clairement du côté des hors-la-loi. Et là, facile à ce moment-là de jouer là-dessus pour l'arrêter et même pour l'exécuter. Le filet est tendu. Quelle que soit la réponse que Jésus va donner, oui ou non, il semble piégé, en tout cas le piège semble imparable. Passons à la réponse de Jésus. Quelle est-elle ? Est-ce que Jésus va tomber dans le traquenard ? Jésus n'est pas dupe et il va magistralement éviter le piège tendu. Je relis les versets 15 à 17. Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve ? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors ils leur dirent « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient dans l'étonnement à son sujet. La première réponse de Jésus est une question. Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve ? Elle n'appelle pas de réponse directe, mais elle fait au moins deux choses. Premièrement, elle souligne que Jésus voit bien dans leur jeu. Et puis, deuxièmement, elle leur tend la main Elle leur tend la main en les renvoyant à leur motivation profonde. Et ainsi, Jésus leur offre la possibilité de sonder leur cœur, de faire le point et pourquoi pas de changer de direction. Il en est encore temps. Même dos au mur, d'une certaine manière, Jésus leur tend la main de la grâce. C'est un petit peu le « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font » que Jésus dira sur la croix. Après cette première question, cette main tendue, Jésus leur demande de lui apporter un denier. Le denier, c'était une pièce romaine, généralement en argent. Pourquoi faire ? Pour leur poser une autre question, celle que nous trouvons au verset 16. De qui sont cette effigie et cette inscription ? La réponse est évidente, il suffit de regarder sur la pièce, je vous en ai mis une ici, de César. De César. En effet, sur les deniers de l'époque, il y avait sur une face, sur l'avers, la tête de l'empereur. À l'époque, c'était Tibère. Et puis, il y avait autre chose au revers, mais intéressons-nous juste à l'avers, ce qu'on appelle l'avers. Avec, je passe sur les inscriptions en latin, il y a des choses qui sont en raccourci, je les ai mis en toutes lettres, et puis surtout ce que ça veut dire en français, Tibère César, fils du divin Auguste, Auguste, à savoir Auguste lui-même. Voilà ce qui se trouve sur ce denier. Et une fois le constat ce constat fait de l'effigie de César sur les deniers, tout est en place pour la réponse finale de Jésus. Une réponse qui va laisser chacun étonné, comme nous l'avons lu à la fin, ils étaient dans l'étonnement à son sujet. Alors comment comprendre la réponse brillante de Jésus qui ne répond absolument pas à la question de départ ? Jésus ne dit rien de la validité ou de la non-validité de l'impôt. C'était ça la question. Et j'aimerais terminer en soulignant quatre choses, quatre points que je tire de la réponse de Jésus et de ce qu'elle sous-entend. La réponse de Jésus souligne tout d'abord que les autorités humaines ont leur place devant Dieu et dans la société. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Les autorités humaines ont une légitimité, elles sont voulues de Dieu. Et Jésus ici n'oppose absolument pas le règne de César au règne de Dieu. Les deux ont leur place, les deux ont leur légitimité, la cohabitation est voulue par Dieu. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre, et chacun a sa place. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. En appelant à rendre à César ce qui lui appartient, son buste, sa tête est sur les pièces de monnaie, ça appartient à César, c'est la propriété de Rome. Jésus reconnaît le bien fondé des autorités humaines. Et nous avons plusieurs textes du Nouveau Testament qui vont dans le même sens. Dans l'Épître aux Romains, par exemple, l'apôtre Paul demande la soumission aux autorités parce que, dit-il, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Elles sont instituées par Dieu. C'est pourquoi, dit-il, s'opposer aux autorités, ne pas leur être soumis, ne pas payer les impôts, revient à résister à Dieu lui-même, revient à résister à l'ordre de Dieu, car les autorités viennent de Dieu et sont au service de Dieu. Et ce « sont au service de Dieu », l'apôtre le répète trois fois dans les versets 1 à 7. C'est un petit peu long, mais je vais le lire parce que c'est un texte important. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est plutôt clair. Et on trouve un autre texte dans le Nouveau Testament qui va dans le même sens, un texte beaucoup plus court, dans la première lettre à Pierre, chapitre 2, versets 13 à 14, « À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. » Il y a donc tout d'abord dans la réponse de Jésus une reconnaissance des autorités humaines de leur légitimité. Fussent-elles romaines ? Ce n'est pas la question. Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, bien évidemment, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Reconnaître la légitimité de César et reconnaître que certaines choses lui sont dues, alors que d'autres sont dues à Dieu, c'est dissocier, c'est bien dissocier César et Dieu. C'est la deuxième chose que je voudrais souligner. Il ne faut pas confondre César et Dieu. C'est une évidence pour nous, ça l'était beaucoup moins dans un peuple, dans une époque où il y avait beaucoup de divinités. César n'est pas Dieu et Dieu n'est pas César. Certes, il y a deux autorités, elles cohabitent, mais elles ne fusionnent pas. Et puis, elles ne se situent pas sur le même plan, sur le même registre. La réponse de Jésus est donc une désacralisation du pouvoir de César. César est légitime, oui, mais il n'est pas Dieu. Il faut rendre à César ce qui est à César et il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Mais César n'est pas Dieu. Et s'il n'est pas Dieu, il ne doit pas être adoré, quelles que soient ses prétentions à ce sujet. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui est marqué sur ce denier, sur le titre que César s'attribue d'Auguste. Et nous savons aussi qu'il y avait et qu'il y a en toile de fond toute la question du culte à l'empereur qui était pratiqué dans l'Empire romain. J'ai bien aimé un texte que j'ai trouvé sur Internet de Charles Nicolas, qu'on connaît bien, qui est à Alès et qui écrit sur ce texte. Et je cite ici quelques lignes de ce qu'il dit. Il dit « L'appel à rendre à Dieu ce qui lui revient sonne comme une invitation à ne jamais confondre César, symbole de l'autorité humaine, avec Dieu, créateur et maître de l'humanité. Jésus s'oppose ainsi à toute adoration du pouvoir politique, quel qu'il soit. Il ramène ainsi l'action politique à son juste horizon, une activité humaine à ne jamais confondre avec le royaume de Dieu. Non, César n'est pas Dieu, et Dieu n'est pas César. Et de la même manière, notre monde n'est pas le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu ne se confond pas avec notre monde. Il faut toujours faire la part des choses. Dieu ou Jésus ne sont pas des leaders politiques. La Bible n'est pas un programme politique. L'Église ou le royaume de Dieu n'est pas un État. Les distinctions sont claires. Mais malheureusement, au fil de l'histoire, elles ne l'ont pas toujours été. Il y a eu bien des confusions qui ont toujours, au final, desservi la cause de Dieu. Non, la place de l'Église n'est pas d'assumer, jamais d'assumer le pouvoir et l'autorité de l'État. Jésus exclut donc la théocratie d'un côté et le totalitarisme de l'autre, c'est-à-dire la confusion entre les pouvoirs, entre César et Dieu ou Dieu et César. La réponse de Jésus souligne troisièmement que César et Dieu ont chacun leur dû. Il faut rendre à César ce qui est à César et il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. À chacun son dû, et le dû de l'un n'est pas le dû de l'autre. Après avoir souligné qu'il ne faut pas confondre César et Dieu, nous soulignons ici qu'il ne faut pas confondre et mal diriger le dû qui revient à chacun. Alors qu'est-ce qui est dû à César? Qu'est-ce qui est dû à l'autorité? Qu'est-ce qui est dû à l'État? Si la réponse de Jésus implique l'impôt, il faut sans doute aussi ajouter ce que nous avons vu dans le texte de Romains 13, à savoir la soumission, l'honneur, parce que c'est une autorité légitime, mise en place par Dieu, la crainte aussi, parce qu'elle porte l'épée pour faire appliquer l'ordre. Ce sont là les choses les plus importantes. Et l'apôtre Paul, au verset 2, dit que agir ainsi, c'est obéir à Dieu, c'est respecter son ordre. Quand je me soumets aux autorités, j'obéis à Dieu. Et agir ainsi, dit-il au verset 5, c'est le faire par motif de conscience. Et tout cela veut dire que le chrétien devrait toujours être un bon citoyen, un citoyen exemplaire, respectueux des lois, parce qu'en se soumettant aux autorités, c'est à Dieu qu'il se soumet, puisque c'est Dieu qui les a mises en place. Mais alors, vous allez me dire, mais qu'en est-il des pouvoirs illégitimes, des pouvoirs excessifs, des pouvoirs qui ne nous semblent pas légitimes? En fait, la réponse est la même. La réponse est la même, à la différence qu'il y aura beaucoup plus de situations délicates où l'obéissance à Dieu est remise en question et où il faudra faire un choix. Et c'est ce que nous allons voir dans quelques instants dans le quatrième et dernier point. Rappelons juste ici, pour remettre les choses en contexte, que les autorités romaines auquel Paul demande aux chrétiens de Rome de se soumettre, étaient tout sauf des enfants de cœur. Mais Paul ne dit pas d'obéir aux autorités quand elles font le bien, ou seulement quand elles font le bien. Il dit d'obéir aux autorités car elles viennent de Dieu. Et j'aimerais ajouter ici, pour terminer ce point, à la liste de tout ce qui est dû à César, j'aimerais ajouter la prière. Et c'est l'apôtre Paul qui en parle dans sa deuxième lettre à Timothée, où il dit ceci: « J'encourage donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, d'accord, et puis pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité. Et la raison particulière nous est donnée, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute dignité. Nous devons à nos autorités de prier pour elles. C'est pour leur bien, mais c'est aussi pour notre bien, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et en toute dignité. Voilà pour ce qui est dû à César. Qu'est-ce qui est dû à Dieu ? Ce qui est dû à Dieu, ce n'est pas ce qui est dû à César, parce que nous ne confondons pas les pouvoirs. À Dieu sont dus au suprême degré la gloire, l'adoration et l'obéissance, entre autres. Parce que je reconnais que César n'est pas Dieu et que Dieu est Dieu, qu'il est mon créateur, je lui donne son dû. Et son dû, c'est ma vie. Avant toute chose, c'est ma vie. Sur les deniers, il y avait l'effigie de César qui marquait que ce denier était la propriété de Rome, la propriété de l'empereur. L'être humain, chacun de nous ici présents, et chaque être humain sur la terre porte en lui l'image de Dieu. Et cette image, même si elle a été affectée par le péché, nous rappelle à chacun que nous appartenons à Dieu et que nous lui devons notre vie. Ma vie n'appartient pas à César, ma vie appartient à Dieu. On termine. Le dernier point concerne cette primauté de Dieu à laquelle j'ai déjà fait allusion. En dernier recours, c'est toujours à Dieu qu'il faut obéir. Dans la très grande majorité des cas, nous sommes en mesure de donner à César ce qui lui revient et à Dieu ce qui lui revient sans qu'il y ait de problème. Dans la très très grande majorité des cas, en tout cas pour nous en France aujourd'hui, il n'y a pas de conflit d'intérêts, il n'y a pas de conflit de loyauté qui nous mette dans l'embarras. Ça peut arriver, mais c'est quand même plutôt rare. Mais toujours obéir à César, c'est parfois désobéir à Dieu. Et que faire si le cas de figure se présente ? Dans nos sociétés occidentales, en France en particulier, dont le droit est souvent ou en grande partie fondé sur des principes judéo-chrétiens, c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas souvent. Mais c'est beaucoup, beaucoup moins rare dans des régimes totalitaires, et il y en a beaucoup sur cette terre, dans des régimes qui persécutent les chrétiens à cause de la foi, et il y en a beaucoup aussi. Et cette situation, elle s'est présentée très très rapidement aux apôtres, après que Jésus les ait quittés, après la Pentecôte. C'est ce que nous lisons au début du livre des Actes. Les autorités juives ont arrêté rapidement Pierre et Jean, et ils leur ont interdit de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Alors qu'est-ce qu'ils devaient faire ? Quelle était la bonne attitude ? Devait-il se soumettre aux autorités ou pas ? Obéir au Sanhédrin qui leur ordonnait de ne plus parler du nom de Jésus, c'était désobéir à Dieu. Alors ce que Pierre et Jean ont fait, d'abord ils leur ont donné cette réponse, est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? Réfléchissez-y. Et puis, ils sont partis et ils ont continué à obéir à Dieu, c'est-à-dire à annoncer que Christ était vivant, qu'il était ressuscité, et ils ont été à nouveau arrêtés. Et nous sommes au chapitre 5, cette fois-ci, Et là, ne vous avions-nous pas donné l'injonction formelle de ne plus enseigner en ce nom-là, dit-il. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, vous êtes décidé à faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre leur répondit ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, qu'aux humains. Et cette réponse, c'est exactement la réponse que Martin Luther, au début de la Réforme, a donnée au dignitaire de l'église de Rome qui était venu le trouver, ça s'est passé dans la ville de Worms, quand ils l'ont sommé de se rétracter. Vous savez qu'il a placardé 95 thèses sur la porte de l'église et ils lui ont sommé de se rétracter et Martin Luther a dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Pierre et Jean étaient-ils des rebelles? Étaient-ils des anarchistes? Non. Ils étaient soumis aux autorités. Mais dans la hiérarchie des autorités, Dieu était pour eux au-dessus des autorités humaines, et cela d'une manière incontestable. Alors oui, quand il y a un choix à faire, quand il y a un conflit d'intérêts, un conflit de loyauté, quand obéir aux hommes signifie désobéir à Dieu, il faut choisir d'obéir à Dieu. Parce qu'en dernier recours, c'est toujours à Dieu que doit aller notre obéissance. Quand l'État, quand l'autorité, les autorités demandent ce qui revient à Dieu, elles sortent de leur légitimité. Et le chrétien doit alors choisir d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, il faut quand même préciser ici que cette désobéissance dont on parle, c'est pas désobéir à quelque chose parce que ça ne me plaît pas, parce que j'ai des convictions politiques qui sont différentes de celles du pouvoir en place. C'est pas de ça dont on parle. Mais à une demande de l'État qui m'empêcherait d'obéir à Dieu, qui m'empêcherait de vivre ma foi, qui m'amènerait même peut-être à faire le mal ou à pécher. C'est contre cela qu'il faudrait, si le cas de figure se présentait, qu'il faudrait s'opposer. Dans ce cas de figure et dans ce cas de figure seul, que cette désobéissance civique serait envisageable quand il y a conflit de loyauté. C'est toujours Dieu qui doit l'emporter. Rendre à chacun selon son dû implique donc que Dieu ne soit jamais lésé. Si l'État demande ce qui revient à Dieu, alors avec la même conscience qui me fait me soumettre aux autorités, je me soumets plutôt à Dieu. On comprend assez rapidement et assez facilement que les conséquences peuvent être délicates dans des régimes abusifs, totalitaires, pas vraiment en France, on risque pas grand-chose, nous. Mais nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de la foi sont souvent face à un dilemme parce que obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, dans certaines situations, c'est vraiment mettre leur vie en danger. Et je pense ici, et ça sera notre dernier texte, à cette parole de l'apôtre Pierre qui dit « Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal ». Oui, c'est pas notre lot quotidien, mais c'est le lot de beaucoup de chrétiens. Parfois, suivre le Christ, c'est accepter de souffrir. C'est accepter un chemin de souffrance qui donc, par définition, est difficile, mais que le chrétien peut envisager parce que Dieu est avec lui par son esprit et qu'il veut toujours nous aider à faire sa volonté. Alors, rendons toujours à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça sera pour la gloire de Dieu et ça sera pour notre bien. Amen.